Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. À peine la rentrée entamée, à peine relancée dans le grand désordre quotidien de nos vies respectives, on s'est dit avec l'équipe de cet auguste podcast que ce serait une super idée de reparler de vacances, de plages, de soleil, de paysages idylliques. Mais comme on a une fâcheuse tendance à vouloir chercher à tout prix la petite bête, cet épisode rayonnant, détendu, les pieds dans l'eau, a muté, bien malgré nous, en quelque chose de moins fun mais de bien plus intéressant. Car à bien y réfléchir, en jetant un petit coup d'œil à l'actu estivale, on a notamment vu plusieurs histoires assez affligeantes liées au tourisme, avec carrément des espèces animales dont l'habitat est rendu invivable par l'afflux de voyageurs, comme les macareux des îles Féroé ou les dragons de Komodo, ou encore le récurrent problème de Venise qui croule très littéralement sous les visiteurs qui en plus font n'importe quoi. Conclusion, le touriste est un boulet, est-ce qu'on va pas finir par l'interdire tout simplement? Et surtout, qu'est-ce que notre appétit insatiable pour les lieux hautement photogéniques, parfois assorti de démarches totalement dénuées de sens, dit de nous? Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Cette réflexion, elle a également été alimentée par le cas particulier de l'Indonésie, qui vit pleinement le défi que représente le tourisme de masse, avec une augmentation impressionnante du volume de visiteurs, 12,5% de voyageurs en plus en un an seulement, avec de vraies dérives et des scandales. Récemment, par exemple, un couple de Tchèques s'est retrouvé en pleine polémique là-bas, après s'être filmé en train de se laver les fesses avec l'eau sacrée d'un temple à Bali. Cette histoire, anecdotique mais symbolique, elle a servi de point de départ à un long article de Libération sur le tourisme en Indonésie, signé par mon camarade journaliste Gurvan Kristanajaya, qui est franco-indonésien et avec qui je suis allé discuter de tout ça.
Ça part à la base d'une actualité, donc un couple de touristes, mais qui ne sont pas des touristes en fait, qui sont finalement des expats et qui sont installés à Bali, qui sont tchèques, qui sont des bodybuilders, instagrammeurs, des gros influenceurs, enfin gros dizaines de milliers de followers, et qui se sont filmés en train de se laver les fesses avec de l'eau sacrée d'un temple hindouiste. Puisqu'il faut savoir que Bali est une grosse, enfin une des îles hindouistes les plus importantes de la région. Et donc il y a eu un tollé, ça a suscité un tollé sur l'île, puisque l'île était aussi appelée l'île des dieux, donc ça veut dire c'est très important la religion, et surtout là-bas on croit beaucoup aux esprits. Donc c'est les esprits, ils passent par l'eau, ils passent par l'air, voilà. Donc se laver les fesses avec l'eau des esprits, c'est compliqué, quoi. Là-dessus, il y a eu des appels à les traquer. Sur les réseaux sociaux, des locaux qui en fait voient aussi un afflux de touristes qui font tout et n'importe quoi sur leur île et qui se disent bon bah là ceux-là on va pas les louper, on va les traquer, et ça a poussé un peu le gouverneur qui jusque-là s'était pas trop exprimé à dire les touristes qui se comportent mal, on les renverra chez eux.
Parce que justement, Bali est confronté à un afflux de touristes, on peut clairement le dire, parce que dans l'article, tu notes notamment, je crois que c'est 12,5% d'augmentation en un an selon les statistiques officielles indonésiennes, du nombre de touristes donc, sur l'année entre 2018 et 2019. Et c'est lié, c'est là qu'on en revient, ça boucle quasiment la boucle, puisqu'on parlait d'influenceurs instagrammeurs à l'instant, c'est lié en grande partie à, on va dire, à l'attrait numérique qu'a Bali, parce que c'est des lieux magnifiques qui sont extrêmement photographiés et donc partagés, viralisés sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est un peu, je sais pas si tu te souviens des Maldives dans les années 90, c'est quand on pense vacances, plage paradisiaque ou lune de miel, on pensait aux Maldives, aujourd'hui on pense à Bali, quoi. Parce que Bali, il y a ce mélange de terrasse, enfin culture de riz en terrasse, le mélange d'îles un peu paradisiaques avec des coraux, des poissons, tout ça, et des plages de surfeurs, voilà. Et en plus, c'est très photogénique. Donc du coup, c'est devenu très viral sur Instagram. Je sais pas si t'as compté cet été. Moi, j'ai compté. Dans mes followers, qui sont pas énormes, je sais pas, je dois en avoir 800. Il y en a 10 qui étaient à Bali cet été. Ça fait quand même un pourcentage important, sachant que personne n'est indonésien dans ceux que je cite là. Et puis tous les ans, on voit de plus en plus de gens qui pratiquent ce qui est très en vogue sur Instagram, le backpacking. Mais un backpacking qui est assez paradoxal parce que c'est, on s'affiche avec un sac à dos, mais en même temps, les conditions de vie à Bali sont quand même plutôt, plutôt luxueuses, quoi. C'est des hôtels qui sont des, bon, il y a des auberges de jeunesse, mais la plupart c'est 3, 4, 5 étoiles, quoi. T'es au bord de la plage, tu siffles des noix de coco, voilà. Donc c'est vrai que ces 12,5% entre 2007 et 2018 sont quand même essentiellement lié à Instagram. Ils visent, donc ça fait 15,8 millions de visiteurs en Indonésie, ils visent les 17 millions.
Il y a évidemment, on s'en doute, derrière aussi une logique économique. C'est pas un pays qui croule nécessairement sous les ressources. Donc forcément, le tourisme pour beaucoup de pays, d'ailleurs dont la France, c'est une source de revenus non négligeable. Donc forcément, il y a un intérêt. Mais derrière ça, j'ai cru comprendre, en lisant notamment ton article, il y avait d'autres questionnements qui étaient à l'œuvre, notamment des questionnements écologiques. C'est-à-dire que ce tourisme-là, il ne se fait pas sans une certaine dégradation, justement, de ces lieux qui sont si beaux et si instagrammables.
Oui, en effet, toute la dimension écolo qui est importante, c'est que nous, quand on vit en France, on est sensibilisé à la question écolo et on va trier nos déchets. Il y a tous les dispositifs, en tout cas, on espère, pour traiter les déchets, recycler, etc. En Indonésie, il faut voir que c'est un pays qui est en expansion. C'est une évolution qui est très très forte ces derniers temps, une grosse poussée, notamment ces 10 dernières années, mais c'est encore un pays en développement, quoi. Donc, quand des îles, par exemple, je vais prendre l'exemple du Nil, c'est Gili Trawangan, il y a un archipel d'îles qui s'appelle les îles Gili, au large de Bali, qui sont 3 îles. Ces îles-là, il y a 20 ans, n'étaient pas connues, du tout, quasiment pas connues, quoi. Aujourd'hui, il y a un afflux impressionnant de touristes qui arrivent chaque semaine, quoi.
Il n'y a pas les structures pour les accueillir.
Évidemment, il n'y a pas les structures. Donc, résultat, ce que font les Indonésiens, c'est on fait des gros tas au milieu de l'île, là où les touristes ne vont pas parce qu'ils restent au bord des plages, et on entasse tous les déchets-là sans les traiter. Donc, évidemment, il y a d'autres problématiques, c'est que quand on va se baigner, qu'on ramène des bateaux bus, quoi, sur les barrières de coraux et que de corail et que on jette. Les guides jettent de la bouffe pour les poissons pour les faire remonter, ben à force ça détruit aussi l'écosystème, etc. Donc effectivement tout cet afflux là, il y a eu une vidéo d'ailleurs qui a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux d'un plongeur qui se filme avec une marée de sacs plastiques au large de Bali, quoi. C'est
il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement indonésien, notamment par le gouverneur de Bali, je crois, pour justement essayer de contenir un peu et organiser justement la gestion des déchets qui nécessairement vont avec l'afflux de touristes.
Ouais, il y a des mesures. Ils ont interdit le plastique à usage unique, qui est une mesure assez forte et assez symbolique. Le problème, c'est que quand on dit on interdit le plastique à usage unique en France, en général, on le respecte. En Indonésie, c'est plus compliqué. Voilà, donc la loi est en train d'être appliquée petit à petit. C'est quand même le signe d'une certaine fermeté de la part du gouvernement par rapport aux touristes et par rapport à l'industrie, à l'hôtellerie. Il y a des mesures, disons, assez vite.
Il y a des mesures. Il y a aussi, par contre, en parallèle, une saturation très claire des Balinais. On le disait au début, avec notamment cette histoire dont on est parti dans notre conversation sur ce couple de Tchèques, donc qu'on évoquait au début, qui a été menacé d'être pourchassé par les Balinais, par les locaux. Il y a une vraie saturation des Balinais, et du coup, il y a des propositions aussi qui émanent pour essayer de contenir un peu le tourisme, notamment carrément l'idée d'instaurer des quotas.
Ouais, c'est une proposition. En fait, il faut voir aussi la succession des événements, c'est-à-dire que ce couple de Tchèques qui se lave les fesses avec de l'eau sacrée arrive après un jeune qui saute sur des automobilistes complètement bourrés et qui blesse quelqu'un qui un Indonésien qui est allé au travail, et après un autre touriste russe qui s'est retrouvé à l'aéroport avec un bébé orang-outan, enfin un petit orang-outan qui voulait ramener chez lui en animal de compagnie. Tout ça crée une certaine forme de tension, de détestation. En indonésien, on a un mot pour dire ça se dit orang bule, ça veut dire homme blanc, boule, et boule, en fait, c'est un double sens pour nous, mais c'est quasiment ça, quoi. C'est-à-dire que ce sont des boulets, un peu pour les indonésiens, c'est-à-dire qu'on se les traîne, et à la fois ça dope notre économie, et en même temps, c'est difficile de vivre au quotidien avec. Ouais. Donc, effectivement, les quotas pourraient être une mesure pour pour certains Indonésiens, ce serait une bonne idée d'instaurer des quotas parce que, effectivement, on choisit. Déjà, ça ferait monter les prix. Et en plus, on choisirait un peu certains touristes plutôt que d'autres. Enfin, pas plutôt que d'autres, mais on choisirait certains touristes. Et la place serait chère, donc on serait peut-être plus tenté de respecter l'île. C'est l'idée derrière. Après, je sais que sur certaines plages aux Philippines ou en Thaïlande qui sont confrontées au même problème, ils le font déjà. Après, de là à le généraliser à toute l'île, je pense que ça risque d'être compliqué pour le gouvernement et pour le gouverneur, parce que c'est clairement se tirer une balle dans le pied.
Autre problématique liée au tourisme de masse, son interaction là aussi assez complexe avec le patrimoine, et plus précisément les sites archéologiques, par nature fragiles, mais également source d'intérêt pour les visiteurs et évidemment source de revenus pour les régions ou les institutions qui en ont la charge. Ce rapport, pas des plus évidents, j'en ai discuté par téléphone avec la géographe Mélanie Duval, chargée de recherche CNRS, rattachée à l'Université de Savoie.
Tout dépend de la manière dont va être organisé le tourisme. Sachant qu'on a aussi des exemples où l'absence de tourisme peut en fait être un facteur de vulnérabilité des sites archéologiques. Je vous prends l'exemple de gravures qui vont être dans les Alpes.
Ouais.
Donc des gravures qui datent du néolithique, donc on est à peu près à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Ces gravures, elles sont peu visibles. Parce que aussi vous avez des questions d'orientation du soleil, donc suivant à quelle heure vous passez à la journée devant ces gravures, vous allez plus ou moins les voir, et elles sont aussi peu connues, excepté pour les archéologues, qui où elles sont connues et reconnues, documentées. Mais là, on n'a pas du tout de mise en tourisme. On a très peu de mise en tourisme autour de ces gravures. Il y a un parc archéologique, mais qui est assez peu fréquenté. Et donc, l'absence de mise en tourisme entraîne une absence de connaissance de la part des locaux et aussi des visiteurs qui fréquentent les Alpes. Et donc, des pratiques parfois qui sont peu appropriées, avec, par exemple, de la circulation sur ces roches. Il y a eu aussi des exemples des circuits de VTT. Qui passait sur les roches avec du coup de l'érosion de ces gravures, du fait est directement lié à l'absence de connaissances qu'on peut lier à la faible mise en tourisme de ces gravures. Donc la mise en tourisme participe aussi d'une connaissance et reconnaissance de la valeur des sites archéologiques. Après, c'est sûr qu'à l'inverse, on peut avoir des sites archéologiques où il va y avoir une très forte fréquentation, qui va entraîner de l'endommagement de ces sites et où il y a des aménagements propices qui doivent être trouvés, pouvant aller jusqu'à la fermeture du site et la construction de répliques.
L'un des exemples qui revient souvent quand on s'intéresse à cette question du rapport entre tourisme et archéologie, c'est évidemment l'exemple des grottes et des peintures rupestres en France, notamment l'exemple de Lascaux, évidemment. Une question qui moi me vient quand on évoque ces sujets, c'est quand on ferme ces lieux, qu'est-ce qu'ils deviennent exactement? Puisqu'on ne les présente plus au public, qu'est-ce qui leur arrive finalement? C'est quoi leur vie une fois qu'ils sont fermés? Est-ce que ça devient uniquement des lieux de recherche, des lieux de science? Ou est-ce qu'on les ferme tout simplement et plus rien ne s'y passe?
Ben, je vous remercie beaucoup pour votre question, parce que c'est une discussion qu'on a eue avec des collègues sud-africains qui sont venus du coup dans la Vézère fin mai. Et pour eux, ce qui fait patrimoine, c'est le fait qu'on puisse faire l'expérience du lieu de manière très claire, de manière beaucoup plus claire qu'en France. Et donc, ils étaient assez ahuris, en fait, de la logique qu'il y a derrière la fermeture d'un site, en disant, mais oui, mais ce site, une fois qu'il est fermé, ce n'est plus le lieu qui fait patrimoine, ça devient un lieu qui est coupé, en fait, de son environnement social. Et il me disait, c'est quand même assez impressionnant qu'en France, vous soyez capable de payer des taxes et des impôts qui vont permettre la conservation de ce site et son utilisation pour des recherches, mais sans pouvoir en bénéficier en termes d'expérience patrimoniale. Et pour eux, ça relève du non-sens. Donc, c'était assez intéressant d'avoir cette discussion-là avec eux, parce que c'est vrai qu'en France, on a une conception très monumentale des sites archéologiques, où on doit absolument et impérativement préserver ce que l'on voit.
Oui.
Et préserver ce que l'on voit peut aller jusqu'à couper l'expérience du lieu, et donc avec la construction de répliques. Alors après, il y a des répliques qui sont extrêmement bien faites, et on travaille aussi sur cette question-là du transfert de l'authenticité. Si on prend l'exemple de Chauvet, on a fait une recherche dernièrement avec des entretiens à la sortie de la visite de la réplique, avec des entretiens avec les visiteurs sur leur ressenti dans la réplique.
Ouais.
Et on observe qu'ils ont un ressenti d'authenticité qu'ils qualifient de satisfaisant, et allant même jusqu'à être dans ce système de représentation où ils pensent qu'ils sont dans la vraie grotte durant la visite.
Oui.
Donc on a des répliques qui fonctionnent comme un substitut qui permettent cette expérience d'authenticité quand bien même la grotte originale est fermée.
Est-ce qu'on éduque suffisamment les touristes, qu'ils soient nationaux ou internationaux, on va dire, à justement ce rapport à cette préservation nécessaire du patrimoine, cette protection qu'il faut avoir du patrimoine, si on veut justement en faire l'expérience? Est-ce qu'on est suffisamment préparé à être un bon touriste? Je ne sais pas s'il y a de bons touristes d'ailleurs, mais est-ce que, d'après vous, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose justement dans la préparation intellectuelle du public à ces visites?
Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie touristique, elle est beaucoup dans la consommation.
Oui.
Donc ça, après, c'est aussi lié à la société dans laquelle on est en ce moment. Mais après, vous avez des supports de médiation qui invitent le touriste à penser autrement son expérience. Bon, là encore, ça dépend aussi des politiques culturelles qui vont être mises en place, des aménagements, des accompagnements, des ressources qui vont être mobilisées. Donc, ça dépend aussi, si on reprend l'exemple des sites archéologiques, de la place de l'archéologie dans les parcours scolaires.
Oui.
Vous regardez aujourd'hui, la préhistoire en France, c'est une toute petite parenthèse en sixième. Donc, l'éducation à la préhistoire et à l'importance des sites archéologiques de cette période, parce qu'après, on a des sites archéologiques d'autres périodes, mais en tout cas, des sites archéologiques préhistoriques, elle est assez minime. On a une évocation qui est très, très rapide dans les programmes scolaires. Donc, on n'a pas une éducation ou une conscientisation de la valeur de ce type de site. Donc, après, ça va dépendre de votre environnement familial, de vos parcours de vie, etc. Donc, déjà, de fait, le substrat sur lequel vous pouvez vous appuyer après pour construire vos expériences de touriste, ça dépend de ces programmes scolaires. Et en France, c'est quelque chose qui est très peu abordé. Si on regarde les pays voisins, on va pas du tout avoir la même approche. Donc, de manière très claire, on a remarqué ça autour des vestiges sur lesquels on travaille aussi, qui sont les vestiges de cités lacustres, qui sont dans les lacs alpins. Donc, il faut que vous imaginiez des pieux qui sont dans l'eau. Et ces pieux, en fait, c'est les marqueurs de villages qui existaient entre moins 5000 et moins 3000, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ces vestiges qui sont dans les lacs, en France, quasiment personne ne les connaît. C'est quelque chose qui... On n'a pas cette conscience que ça existe dans les lacs. Même les gens qui habitent à proximité, ils ne savent pas qu'il y a ces pieux dans l'eau. Et s'ils savent qu'il y a des pieux, ils ne savent pas ce que ça représente. Vous vous déplacez à 2 heures de route, vous allez à Neuchâtel, en Suisse. Ces mêmes vestiges qui sont dans les lacs, ils sont enseignés à l'école. Ils font partie de l'identité nationale aussi, puisque ces cités lacustres, elles ont été mobilisées lors de la construction de la Confédération helvétique comme étant un patrimoine commun aux quatre cantons de l'époque. Donc, il y a une utilisation de ces vestiges-là pour construire l'identité helvétique de manière assez importante. Et ces vestiges-là sont enseignés à l'école. Et la sortie scolaire de quasiment tous les cantons autour de Neuchâtel, la sortie scolaire du mois de juin, elle se fait sur la reconstruction d'un de ces villages. Donc, de fait, à 2 heures d'écart, donc à 200 km de distance, vous avez une conscience de l'importance de ces vestiges qui est complètement différente et qui est liée à l'histoire de ces sites et surtout à l'histoire, à la place de ces sites dans l'histoire de la construction d'une nation ou d'une région. Donc, il y a aussi ça qui joue, en fait, au niveau de l'éducation, du contexte dans lequel vous vous situez.
Vous aurez remarqué qu'on en revient quand même finalement souvent à la même conclusion, le rôle de l'éducation, de l'information, de la connaissance dans l'amélioration de notre rapport au monde. Bon, ça veut pas dire que c'est la seule et unique réponse à tous les problèmes qui secouent nos sociétés, bon, c'est déjà une bonne base. Merci à Marion Duval et Gurvan Krishnajaya pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.